Avec Monseigneur Jacques Perrier.
Bonjour. Pour la troisième fois, troisième série d'entretiens dans ces chroniques mariales, je vais vous parler des vitraux, des fenêtres, comme on disait autrefois, de la basilique supérieure. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Bien parce que d'abord, ils sont complètement méconnus, y compris des gens qui viennent fréquemment à Lourdes. Et que d'autre part, ces vitraux, la thématique de ces vitraux a été soigneusement réfléchie par un chanoine, Lambert, dont on parlera d'ailleurs dans une émission suivante. Et ils sont consacrés à l'Immaculée Conception, au dôme de l'Immaculée Conception. Alors souvent pour la basilique supérieure, on dit la basilique supérieure. Ben oui, parce qu'effectivement, mais son vrai nom, c'est quand même la basilique de l'Immaculée Conception. C'est quand même la chapelle que la dame avait demandé, et donc évidemment, vous le savez bien, fort antérieure de plusieurs dizaines d'années, de la basilique du Rosaire, d'ailleurs dont le nom complet est Notre-Dame du Rosaire. Alors, dans une première série d'entretiens, je vous avais parlé des vitraux de la partie gauche, parce que quand vous entrez, sur votre gauche, bien. Et donc, qui étaient les préfigurations de l'Immaculée Conception dans l'Ancien Testament. Alors, on partait de la Genèse et de la promesse que la descendance de la femme écraserait le serpent, jusqu'à un certain nombre de patriarches, et puis les femmes fortes de l'Évangile, et puis finalement les parents de Marie, et puis finalement, donc, tout au fond, le vitrail de la proclamation du dôme. Voilà, ça c'est la fenêtre gauche. La série droite, on part de l'Annonciation, ensuite Apocalypse, on continue, etc. Bon. Et on arrivera au même endroit, si vous voulez, les deux convergent. Bon, évidemment, pour les voir, il faut se mettre en face. Il ne faut pas se mettre en dessous. En dessous, vous verrez rien. D'ailleurs, il y a un certain nombre de petites affiches, je crois, assez sobres mais claires, voilà, qui vous expliquent les vitraux que vous avez en face de vous. Bon. Donc ça, c'est pour les fenêtres supérieures. Bon. Les fenêtres inférieures racontent les apparitions. C'est un autre cycle. Alors, dans la deuxième série d'entretiens, on était arrivé jusqu'au pape. Bon, et alors, il nous reste les derniers. Alors, le vitrail de la cinquième chapelle à droite est consacré au Concile de Trente. Concile de Trente, très très important dans l'histoire de l'Église. Ça a été très compliqué d'ailleurs pour le réunir. Il a duré longtemps, 1545, 1563, et les papes se sont succédés à l'époque. Dans ces 18 ans, il y a eu 5 papes successifs. Bon, et puis ça se passe à Trente, c'est donc dans le nord de l'Italie, les troubles qui existent à l'intérieur du pays. Pourquoi ce concile ? Bien, évidemment, en réaction à la réforme dont les dates, pour avoir se situer, les thèses, les fameuses thèses de rupture, si vous voulez, de Luther, ont été affichées en 1517, et Calvin, avec en particulier son texte « La défense de la doctrine du cerf arbitre », je parle de ça parce que ça interviendra un peu sur l'histoire de l'Immaculée Conception, datait de 1543, juste avant. Alors on peut dire peut-être que Rome a été trop tard, a mis trop longtemps à rien, on peut dire ce qu'on voudra. Mais évidemment, c'est suscité par cela. Inversement, c'est injuste d'en faire seulement une réaction polémique. Non, c'est une reprise assez fondamentale avec un travail théologique vraiment de fond. Pour ça que, plutôt que de parler de la contre-réforme, les historiens préfèrent dire que ça enclenche la réforme catholique. Voilà. Alors, ce concile aura de multiples aspects. Évidemment, on parlera de la question du péché originel, de la justice, etc., bien sûr. Mais il y a d'autres aspects, parce que la réforme s'en prend à bien d'autres choses dans la doctrine catholique. Les sacrements, ne voulant reconnaître que deux, le baptême et la scène, et encore à propos de la scène, le Concile va affirmer la doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire que c'est pas simplement symbolique, c'est pas simplement une commémoration, voilà, mais c'est réellement le corps et le sang du Christ ressuscité qui nous sont donnés. Et il prend le mot assez barbare, il faut reconnaître, de transsubstantiation, un peu comme le Concile de Nicée, dont nous fêtons le 17e centenaire cette année, a utilisé pour parler de la relation du Fils au Père le mot de consubstantiel, que nous disons dans notre credo. Il y a d'autres aspects de la liturgie, il y a le culte des saints, il y a les reliques, évidemment les indulgences, une sorte de question dans une année jubilaire, les images, avec dans un temple protestant, en particulier, surtout calviniste, l'exclusion de tout image, il y a la dévotion à la Sainte Vierge, bien autre chose. Bon. Et puis, le Concile aura aussi des conséquences assez pratiques, parce que, pas tout à fait dans le temps du Concile, mais juste à la suite, eh bien, il y aura une réforme du calendrier liturgique, en particulier du calendrier des saints. Et on a épousté un peu avec des saints qui paraissaient assez légendaires. Il y aura une réforme et institution du bréviaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la liturgie des heures, parce que à quoi sont tenus, y compris les prêtres. Et puis, c'est la fondation des séminaires pour la formation des prêtres. Ce que dit, finalement, dans les causes lointaines, il y a la mauvaise qualité, pas seulement intellectuelle, mais disons, on pourrait dire aussi de formation, que ce soit spirituelle, liturgique, théologique, etc., des prêtres. Donc, et puis aussi, ils racontent un peu n'importe quoi, d'où il y aura aussi un catéchisme du Concile de Trente. Tout ça ne s'est pas fait dans le Concile lui-même, fait à la suite. On peut dire, vous pouvez regarder, faire la comparaison avec le Concile Vatican II. C'est un petit peu la même chose. Alors, ce concile, pourquoi je vous en parle à ce propos? C'est que, il a été question du péché originel. Alors, on dit le péché originel, mais ça concerne tout le monde. Oui, et puis il en reste, alors il est pardonné, etc., d'accord, puis il reste toujours des séquelles, il reste des séquelles. Et alors, il y a la question, mais qu'est-ce qu'il en est pour la Vierge Marie? Et le concile dit, dans sa session de 1546, donc c'est assez vite ça, il dit « Le Saint-Concile déclare qu'il n'a pas l'intention de comprendre dans ce décret relatif au péché originel la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, mais que l'on doit observer les constitutions du pape Sixte IV, d'heureuse mémoire, toujours comme ça dans les textes pontificaux, d'heureuse mémoire, ou de vénérée mémoire, sous menace des peines qui y sont contenues. Donc, interdiction d'aller plus loin que ce qu'avait dit le pape en question. Vous voyez quand même qu'on dit la bienheureuse et immaculée Vierge Marie. Alors, est-ce qu'elle est immaculée, y compris dans sa conception, donc aucune trace du péché originel? Est-ce qu'elle a été guérie? Donc, c'était là où il y avait la controverse. Mais ça n'empêchait pas de la dire déjà, comme ça, immaculée. Donc, il renvoie au texte du pape Sixte IV. Et le pape Sixte IV, c'était un texte de 1483. Où il disait, il y en a des qui vont jusqu'à affirmer que tous ceux qui tiennent ou défendent que la glorieuse et immaculée Mère de Dieu a été conçue sans la tache du péché originel, alors ils disent, ceux qui disent ça, ils pêchent mortellement. Bon, et puis à l'inverse, nous réprouvons, condamnons ces assertions comme fausses, mais nous blâmons aussi ceux qui oseraient affirmer que les tenants de l'opinion contraire, selon laquelle la glorieuse Vierge Marie a été conçue avec le péché originel, se rendent coupables d'hérésie ou de péché mortel, puisque la chose n'a pas encore été décidée par l'Église romaine et le siège apostolique. Donc, Machetul, écoutez, la question des pas tranchés, est-ce qu'elle a été guérie du péché originel ou est-ce qu'elle est indemne avant même le premier instant de son existence terrestre, si j'ose dire, plus dans le sein de sa mère, est-ce qu'elle en a été toujours indemne? La question n'étant pas tranchée, donc interdiction de vous excommunier mutuellement. Voilà pour le Concile de Trente. À demain.